Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. Et oui, on est là, on est bien, on a encore deux qualifiés du jour à l'instant. La Belgique dehors, la Croatie et surtout le Maroc, première du groupe, magnifique. C'était fantastique, on a vibré pour les Marocains. Bah oui, parce qu'il y a un côté affectif quand même. J'aime bien cette équipe de Maroc, elle dégage de la sérénité. Puis on connaît beaucoup de Marocains aussi, donc bravo à eux. Vraiment, félicitations à eux, on verra leur adversaire ce soir, on va connaître ça. Et pour en parler, bien sûr, et pour revenir sur le match d'équipe de France, comme tous les jours, il y a Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va?
Bah ça va, on est bien là, à Doha, dans notre bien, studio. On a nos habitudes maintenant, on se régale.
On est bien. Et tu sais pourquoi on est bien?
Pourquoi?
Parce que là, on a deux stars qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France.
Là, il y a de la sélection. Là.
Voilà. Alors le premier, il est habitué, vous l'entendez tous les jours, il est champion du monde. Il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde en 98. C'est Manu Petit. Salut Manu.
Salut les gars.
Salut Manu.
Voilà, Manu.
Et non, juste Manu, une question, ça va durer combien de temps ça?
De quoi?
La Coupe du Monde?
Ouais, bah, non,
toute la Coupe du Monde.
Ah, si vous. Non.
Bah, toute non, la Coupe du Monde.
Toute ta vie, Manu, il va te le dire à chaque fois.
Pour moi, c'est ce que je pense, non, et c'est une fierté de t'avoir avec moi. Alors j'ai le droit de le dire quand même.
Je comprends, mais je n'étais pas sous sol sur le terrain. Puis il y a plein de mecs aussi qui ont été présents.
Mais d'accord, tu vas pas me dire
si c'est Zidane le meilleur de la Coupe du Monde. Non, mais moi, j'aime pas la Coupe du Monde, je ne l'ai pas gagné tout seul.
Par contre, j'avais l'impression que tu étais tout seul sur le terrain.
Ah ouais, c'est ça, vas-y, ramène une couche aussi.
Franchement, c'est pas Stéphane Guivarch le meilleur de la Coupe du Monde.
Arrête de tous les allumer. Non, faire les 22 ou quoi?
Je plaisante. Non, ni Didier Deschamps, par exemple.
Oh, attends, sans Didier, tu crois qu'on est champion du monde?
Il fait pas une grande Coupe du Monde, tu vois.
On va pas se réconcilier tout de suite, j'ai l'impression.
Il faisait des passes à 5 mètres pour Manu, et Manu, il faisait tout le jeu. Bon, allez, vas-y. On a quand même, pour la première fois de l'histoire de Roten sans flamme, un champion d'Europe 84. Et oui, c'est Manu Amoros. Salut Manu!
Salut, bonjour à tous.
Salut Manu.
Ça va Manu?
Vous arrêtez vos débats là sur Manuel Petit. Il a été bon, mais c'est vrai que c'est un ensemble. Plus, j'ai été meilleur joueur de la Coupe du Monde en 86, de l'équipe de France, bien sûr. Hein.
Et Michel, oui, il était où? Il était où, Manu?
Michel qui? Il jouait, mais le problème, c'est que j'étais meilleur que lui. C'est ça, les problèmes.
Excuse-moi, Manu. Manu,
Manu, il se met bien au diapason de Roten sans flamme. Il a compris.
Ma foi, c'est comme ça. Il faut dire les choses comme elles sont.
Manu,
il n'accepte pas. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Il peut pas changer le cours de l'histoire.
Manu, je vais te dire une chose. Tu peux pas me la faire. Parce que bon, tu le constates, tu m'écoutes tous les jours, certainement. Tu vois que je suis un des meilleurs à analyser le football. Donc à 8 ans, j'avais 8 ans en 86. Je les ai vus, les matchs.
Ouais. Et alors?
J'ai vu tous les matchs. Tu t'en souviens de tous?
Tous.
Et tu dis que Michel Platini était meilleur que moi.
Michel, il vous a porté. Et il me le dit très souvent.
Hein. Alors il a fait combien de matchs, Michel, et qui nous a porté avec sa blessure qu'il avait à la cheville?
C'était fantastique.
C'était fantastique.
Manu Amoros, 82 sélections avec l'équipe de France, l'un des meilleurs latéraux de notre foot.
Oui, les garçons, quand vous dites Manu, précisez quand même, parce que voilà.
Ouais, parce que sinon on va répondre tous les deux.
Exactement.
Non, on va dire Manu pour Manu Amoros. Et toi, je vais t'appeler Emmanuel.
Ne dites pas Manu les monégasques. Hein.
Oh, tu dis Manolo pour Manu Amoros, c'est Manu.
Eh oui,
Manolo.
Alors, messieurs, ce soir, Roten sans flamme sur le 8e de finale des Bleus à venir. C'est dimanche, 16h, contre la Pologne. Et pour se projeter, on va finir le débrief de la défaite d'hier face à la Tunisie. Didier Deschamps sera accusé d'avoir été injuste avec Benjamin Pavard, remplaçant hier, alors qu'il y a eu un gros turnover dans l'équipe. Rendez-vous à 18h30 pour débattre. À 19h, la blessure de Neymar va-t-elle empoisonner tout le mondial du Brésil? 32-16 pour débattre. Et puis Messi a atteint un record de Maradona. L'Argentine s'est qualifiée hier pour les 8e de la Coupe du Monde. Si Messi emmène l'Argentine au titre, est-ce qu'il sera alors l'égal de Maradona? 32-16, on vous donnera la parole dans le ring des supporters. Mais tout de suite, faut-il arrêter d'avoir peur?
La peur est le chemin du côté obscur.
Casri, la frappe de Casri! Le but de Casri!
Dire, au bout d'un moment, il faut te prendre en main aussi, il faut essayer de faire des choses.
La peur mène à la colère.
Tout centre dans la surface de réparation, dégagement de la tête. Griezmann ! Grisou ! Qui sauve la maison bleue !
Je ne savais pas que dans l'équipe de France, on pouvait essayer d'inventer des choses.
La colère mène à la haine.
L'arbitre a corrigé. Il vient de siffler la fin du match. Est-ce qu'il va annuler le but? Il annule le but. Il annule le but.
C'était étonnant parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout à du Deschamps.
La haine mène à la souffrance.
On peut les tailler en disant ils sont mauvais et ce soir ils ont été particulièrement mauvais.
Je sens beaucoup de peur en toi.
Et oui, la peur, messieurs. Les Bleus affronteront donc la Pologne dimanche à 16h. La France finit en tête de son groupe. La défaite contre la Tunisie n'a pas eu de conséquences immédiates. Mais est-ce que cette défaite peut avoir des conséquences en interne? Est-ce qu'elle peut briser la dynamique? Finalement, est-ce que c'est grave ce qui s'est passé hier? 32-16 pour participer au débat. Avant de débattre, on va quand même essayer de savoir s'il y a bien défaite à l'arrivée. Parce que il y a eu cette histoire du but refusé à Antoine Griezmann. Fabrice Hawkins nous rejoint, l'un de nos envoyés spéciaux à Doha, autour des Bleus. Salut Fabrice.
Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut.
La Fédé a déposé un recours.
Oui, effectivement, suite à ce but refusé donc à Antoine Griezmann hier dans les toutes dernières minutes du match, la Fédération Française de Football a décidé de rédiger une réclamation qui a été envoyée à la FIFA. Elle devait être envoyée 24 heures après le match. Elle a été envoyée donc aujourd'hui. C'est donc la commission des règlements, c'est un peu technique, de la FIFA qui va s'en occuper. Alors habituellement, elle se réunit toutes les deux semaines. Là, on peut espérer que les membres de cette commission se voient un petit peu plus rapidement pour essayer de statuer au plus vite, mais rien n'est moins sûr. L'idée évidemment pour les Français, c'est de récupérer ce point du match nul. D'ailleurs, Randal Kolo Muani nous en parlait tout à l'heure en conférence de presse. Écoutez ces mots. Oui, c'est important en parlant de récupérer le point du match nul, évidemment. Ça enlève un but à Antoine Griezmann. Pour le moral, si on s'en sort avec le nul, on s'en sort mieux.
On l'écoute? Non, on l'écoute pas.
On l'écoute pas.
Bon, ben, on l'écoute pas.
J'ai envie de parler.
Bon, ben, on verra ça plus tard. Fabrice, tu voulais ajouter un truc?
Ah non, c'était simplement cette précision en tout cas du côté de Randal Kolo Muani. On sent que les joueurs, même si à la fin du match hier soir, ils paraissaient pas non plus très très tristes. Après coup, ils se disent quand même que de récupérer de ce petit point et d'être toujours invaincu dans la compétition, c'est quand même pas mal.
Bah oui. Ok, merci Fabrice.
Alors, imagine quand il dit qu'ils sont pas tristes, faire un match comme ils ont fait et ne pas être triste. Quelle image ils donnent de eux-mêmes par rapport à ce match-là?
Manu, c'est un discours de façade, non?
Comment?
C'est pas un discours de façade, tu penses?
Ben, j'espère pour eux, hein. J'espère pour eux, parce que franchement, tu participes, t'as la chance de participer à une Coupe du Monde, tu fais un match, tu perds le match et tu dois être triste et tu dois être.
Mais alors, messieurs, tu dois c'est la question. Est-ce que c'est grave ce qui s'est passé hier ou est-ce que finalement c'est un troisième match, ça met pas en péril la première place et c'est une autre compétition qui commence maintenant? 32-16, Jérôme.
Écoute, c'est pas si grave que ça de perdre un match, en plus qui plus est un match qui compte pas, donc c'est pas gravissime en soi. C'est pour ça que obtenir gain de cause, imagine un match nul, annuler la victoire de la Tunisie, franchement je vois pas l'intérêt. Au contraire, c'est de te disperser un petit peu avant le huitième de finale, donc pas besoin d'aller plus loin, ils l'ont perdu le match, basta. Après, dans l'analyse un peu plus complète et globale, là je rejoins Manu Amoros quand tu dis, Manu, que en effet les joueurs qui ont été mauvais hier sont pas tristes après un tel match. Là, ça me laisse perplexe. Et ça, c'est le discours de Fabrice. Alors, j'espère que ça touche juste les joueurs qui n'ont pas joué ou très peu joué, les entrants, par exemple, que eux soient moins tristes. Bon, je peux plus ou moins le comprendre. Après, le problème à ça, c'est la vie d'un groupe. Et on en revenait hier, et on en parlait avec toi, Manu Petit, que ça casse une dynamique de groupe, ça met en difficulté des joueurs qui n'ont pas été bons hier, qui n'ont pas joué à leur poste, et qui malheureusement ont montré une mauvaise image d'eux. On se pose des questions même sur leur niveau international. Et ça va rejaillir sur l'ambiance du groupe. Parce que aujourd'hui, quand ils se lèvent, on ne peut pas me faire croire que le joueur qui a été mauvais, qui a été titulaire hier, il est content de jouer un huitième de finale dimanche. Parce qu'il sait très bien que déjà il va pas le jouer parce qu'il a été mauvais. Il est pas dans les petits papiers de Didier Deschamps et encore moins après une telle prestation. Et que Didier déjà, il avait montré sur les deux premiers matchs qu'il avait un groupe restreint dans le sens où quand il y a des joueurs qui sont dans la tête de Didier Deschamps titulaire, il a son équipe type aujourd'hui. Hein, on va pas se leurrer. On sait qui va jouer le huitième de finale contre
Pologne.
La Pologne. On sait très bien que si l'équipe de France elle est en difficulté contre la Pologne, il y aura deux à quatre joueurs à pouvoir rentrer. Mais le reste, ils vont plus jouer. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est la vérité. Et ça, Je peux te dire, pour l'ambiance collective, c'est un problème. Parce que, en effet, tu vas avoir des têtes à l'envers, la gueule de travers pour certains, et que pour le fait de bien vivre ensemble, de ceci, cela, c'est là qu'on met le doigt là où ça fait mal, sur la défaite d'hier et la prestation d'hier. Mmh. Et il faut dépasser le cadre juste du résultat, parce qu'en effet, le résultat, on s'en cague.
Oui, ça change pas fondamentalement les choses. Non, Manu, t'es d'accord avec Jérôme, Manu
Amoros? Oui, moi je suis d'accord avec Jérôme de tout ce qu'il a dit. Moi je dirais que Deschamps s'est mis dans la merde complètement. Parce qu'il pensait quand même que ces changements allaient apporter quelque chose, que les deux petits matchs qu'ils ont fait après les deux premiers matchs allaient donner beaucoup de réponses aux sélectionneurs. Et en fin de compte, il s'est trompé sur toute la ligne. Donc c'est presque à la limite à lui que j'en veux le plus. Parce qu'il aurait dû réfléchir à davantage à comment organiser son équipe et à comment la faire travailler. Et puis, tu dis pas ton équipe au dernier moment sans que les joueurs ne le sachent des heures et des heures avant. On sait que les joueurs, il y a des tops qui téléphonent aux journalistes en disant un tel est titulaire, on va jouer comme ça. Il voulait préserver l'anonymat de son équipe jusqu'au dernier moment. Mais je pense que c'est pas une bonne chose parce que les joueurs on l'a vu sur le terrain, n'était pas bien préparé.
Bah Manu, c'est pas une bonne chose parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup de joueurs qui découvraient leur position. Il y a des joueurs qui ont jamais joué. Guendouzi a jamais joué milieu gauche. Fofana a jamais joué milieu droit. Dissasi, une fois en club, première sélection, il joue arrière droit. Coman, il joue deuxième attaquant.
Kamavinga
arrière gauche. Bon, Kamavinga, on en revient. C'est aujourd'hui, il est obligé de se mettre dans la posture d'être la doublure de Théo Hernandez. C'est comme ça.
Il a donné des signes de faiblesse quand même. À ce poste-là, on peut pas s'inventer du jour au lendemain comme ça, latéral. C'est pas possible.
C'est pas faux. C'est Manu pas Petit, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterais un petit détail en fait. Par rapport justement à la mauvaise prestation des remplaçants de façon unanime, on va certainement en venir puisque c'est dans les thématiques de ce soir, le cas Pavard.
C'est le fait d'entrer l'accusé dans 10 minutes.
Oui, parce que je trouve qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé hier dans la mesure où les signaux qu'ont envoyé les remplaçants aux titulaires ne sont vraiment pas bons. Et Pavard faisant partie des titulaires du premier match, il y a des indiscrétions qui sortent à l'heure actuelle en disant qu'il y a même des joueurs qui se plaignent de son niveau. Donc j'imagine que ça s'est.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, mais j'imagine que ça s'est élargi à beaucoup de joueurs depuis hier. Veut dire par là, c'est que moi, l'équipe, le 11 titulaire qui est très performant, il faut les mettre dans du coton. Parce que si demain il y a un blessé à l'entraînement, quoi que ce soit.
Les choses ont vraiment changé hier, ou est-ce que les joueurs là dont tu parles, Jérôme, en gros, on va faire la Coupe du Monde à 14, du coup à 13-14. Est-ce que les autres, ils étaient déjà pas sûrs de leur sort? Est-ce qu'ils savaient pas déjà qu'à la Coupe du Monde, ils joueraient pas beaucoup? C'est déjà bien d'être ici.
Jean-Louis, j'ai eu la chance de connaître, de faire deux grandes compétitions, mais surtout une avec l'équipe de France, c'est l'Euro. J'étais dans la posture des remplaçants, ça c'est clair. C'est-à-dire, même si je sortais d'une grosse saison, il y avait des joueurs devant moi qui étaient indéboulonnables. C'est comme ça. Mais t'essayes.
Parce que ça tient pas la comparaison, Jérôme, parce que toi, tu m'avais raconté que on t'avait fait miroiter, qu'il y aurait peut-être un système où tu jouerais, etc. Mais les joueurs dont on parle, Deschamps, il leur a dit dès le début qu'ils seraient remplaçants.
Oui, mais
donc ils seront moins frustrés.
Sauf
là.
Que qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, quand tu fais une,
j'imagine quoi qu'il arrive.
J'imagine quand même. Et il l'a déjà dit, Didier. Il a dit les 25 joueurs que je vais prendre ou les 26 ils vont vouloir tous jouer. Mais je ne peux pas faire jouer tout le monde, en effet. Mais après, quand tu as l'occasion de montrer, de rentrer 10 minutes...
Quand il dit ça, c'est faux.
C'est pour ça. On le sait que c'est faux, Manu. Mais sauf que je suis désolé. Si hier, il y avait des joueurs qui avaient donné satisfaction dans les remplaçants, tu crois que dans la tête de Didier, je le connais un petit peu quand même, dans la tête de Didier, il se dit, tiens, lui, je peux compter sur lui. On ne sait jamais. S'il y a un problème au milieu et que un Verretou avait montré des choses intéressantes hier, que un Guendouzi, même pas dans sa position, un peu d'agressivité, un peu de ceci, un peu de cela, plus de combativité, comme Fofana sur le côté droit. Et encore Fofana, je pense qu'il garde une longueur d'avance sur tous les autres milieux remplaçants. Et ben, je pense très honnêtement que ce qu'il a pas fait sur le match contre le Danemark, quand le milieu de terrain commençait à prendre l'eau, à être fatigué, à pas vouloir changer, parce qu'il fait pas confiance au milieu qu'il a pris. C'est comme ça. S'ils avaient fait au moins un d'entre eux un bon match hier, eh ben peut-être que sur le match du huitième de finale, quand en deuxième mi-temps, ça peut être compliqué contre la Pologne, on sait pas, on connaît pas le scénario d'un match. Eh ben peut-être que là, il se posera moins de questions. Aujourd'hui, c'est clair et net, il ne fera pas de changement dans ce cœur du jeu.
Alors on va continuer le débat dans une seconde en vous donnant la parole au 32-16. Est-ce que ce qui s'est passé hier face à la Tunisie, c'est grave pour la suite, pour la vie de groupe et pour la suite de cette Coupe du Monde? Venez nous le dire au 32-16 et débattez avec nous dans Rotten sans flamme.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Mi Tour, Jérôme Rotten.
18h16 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. Et oui, on est en direct de Doha avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, avec Manu Amoros. Oui, on a du beau monde autour de la table aujourd'hui. On continue nos débats sur l'équipe de France. Est-ce que on se pose la question avec les deux Manu, savoir si la défaite d'hier va laisser des traces, si elle est problématique, si elle est ceci. Et je pense qu'on est assez d'accord pour dire que bah, malheureusement, on a perdu certains.
Dans 10 minutes, on fera entrer c'est Didier Deschamps accusé d'être injuste avec Benjamin Pavard, 32-16, si vous voulez participer. Alors. Mais d'abord, la défaite d'hier est-elle grave? Alain est là au 32-16, Jérôme.
Salut Alain.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Alain. Tu nous appelles d'où Alain?
J'appelle de la Haute-Garonne.
Ah d'accord.
De Toulouse. Écoute,
bon. Écoute,
bon, moi,
ouais, vas-y, dis-nous.
Si vous me permettez, si vous me laissez deux minutes, après je vous laisse tranquille pour faire
votre question. Mais t'es là pour parler, hein, vas-y. Hein.
Ouais, mais c'est plutôt un coup de gueule que j'ai contre vous, contre vos émissions, c'est tout.
D'accord, déjà, vas-y, dis-nous, Alain.
Déjà, concernant l'équipe de France, vous dites comme ça qu'on n'a pas de banc, mais moi je vous dis, le banc, et vous le savez aussi bien que moi, mais mieux que moi, le banc, on est en train d'utiliser avec tous les blessés qu'on a eus, que ce soit derrière, en milieu de terrain ou en attaque avec Benzema, avec tous les blessés qu'on a eus, donc on a pioché dans le banc justement. Ces mecs-là, ils seraient là aujourd'hui, on aurait un super banc. On n'a pas ce banc-là dû à ces blessures. Et moi, je félicite Monsieur Didier Deschamps qui a réussi à nous faire quand même une très très belle équipe, c'est tout. Premièrement.
Mais ça, on dit pas le contraire.
Voilà, mais vous êtes très dans la critique. Il y a, à toutes les émissions que j'écoute, il vous faut une tête de turc. Alors ce soir, ça va être qui? On en prend un, on prend Griezmann, on en prend un autre, mais il est pas à son niveau. Mais Griezmann, il a un très bon niveau depuis au moins 6 ans. Après, il y a toujours des hauts et des bas. On peut pas être au top tout le long de sa carrière.
Il y a plus de bas que de hauts, hein. Mais bon.
Ouais,
vas-y.
Mais oui, mais là, il revient, là. Le match qu'il a fait dernièrement, oui, bah c'est très bien, il revient, mais
écoute,
moi,
Alain,
moi j'envie comme les Argentins qui sont derrière leur pays, qui fédèrent à leur pays. Je trouve que dans la vie, il y a des choses qui vont pas, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes et tout, et là on a la chance d'avoir encore, pas comme en 2018, encore une belle équipe. Eh bien, soyons derrière notre équipe et passons des belles soirées et soyons solidaires de notre équipe et aimons notre équipe et ne la critiquons pas comme on fait. Alors, si elle gagne la Coupe du Monde, on dira, ben oui, c'est bien, ils ont gagné. Mais on n'aura pas été là derrière.
Mais Alain, on dira bravo. Encore une fois, bravo, bravo d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais on n'oubliera pas qu'on a fait un match de merde contre.
J'ai l'impression que Alain, ça va un peu plus loin quand même. C'est pas que le match d'hier. C'est les critiques globales autour de l'équipe de France.
Le match d'hier, vous débattez. Mais le match d'hier, on s'en fout.
Alain,
t'as regardé le match hier?
On s'en fout pas. C'est là le problème. On s'en fout pas.
Alain, t'as regardé le match hier?
Mais non, ces deux matchs importants, on les a gagnés. Et ce qui est important maintenant, c'est le quart de finale.
Alain, quand tu as un sélectionneur qui te fait confiance, la moindre des choses, c'est quand il te permet de jouer un match de Coupe du Monde, c'est de lui donner cette confiance qu'il t'a donnée. Donc tu dois mourir sur le terrain, tu dois te battre. Et hier, on n'a rien vu de cela. Alors
le but c'était
que les remplaçants montrent qu'ils sont capables de remplacer quelqu'un s'ils se blessent.
Mais Alain, écoute-moi Alain, juste une seconde. Il y a quand même trois anciens joueurs, là Jérôme et les deux Manu, qui t'expliquent qu'une défaite comme ça avec cette prestation-là, ça peut avoir des conséquences sur un groupe.
Et si la France gagne 4-0 dimanche, on dira.
Mais on leur souhaite, mais ça n'a rien. Non, mais laisse-moi parler deux secondes, Alain, l'âge que t'as, calme-toi, j'ai pas envie que t'aies un problème.
Alain, si tu nous écoutes pas, Alain, on va être obligé de couper, malheureusement. On va couper Alain.
Alain, doucement.
Moi, franchement, ça me fait chier.
Mais d'accord, Alain, on va se calmer. On parle de football, on est passionné de football.
C'est ça qui est bien.
Tu as l'air d'être passionné de football.
Et c'est, je t'en félicite parce que
non mais attends Alain,
laisse-moi.
Il faut juste écouter Alain, sinon on va pas pouvoir faire la conversation.
On est passionné et plus que passionné, Manu et les deux Manu qui sont avec moi aujourd'hui. Donc nous on est passionné, on attend des choses, on attend de vibrer, on attend de parler de choses. Hier, je suis désolé sur le match. Toi, tu dis qu'est-ce que j'attends du match d'hier? Mais nous, ce qu'on attend du match d'hier, c'est que l'équipe de France, elle montre un bon visage et qu'elle gagne le match. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils attendaient du match d'hier, Alain? Ils attendaient de gagner le match.
Non mais
laisse-moi finir. Mais je te parle, Alain. Mais non, tu peux pas t'en fiche. Tu peux pas. Mais alors, ça veut dire que est-ce que t'as regardé le match hier? Tu l'as regardé? Donc tu t'en fichais pas? Tu l'as regardé pourquoi?
La différence, c'est que j'attendais rien. Par contre,
toi, que t'attends de rien sur le match d'hier, c'est ton droit. Nous, on est en droit, par rapport à notre expérience, de t'expliquer que les remplaçants qui ont joué hier avaient un coup à jouer, avaient une image, il te l'a dit, Manu Amoros, il y avait une image positive à montrer, avec une mentalité. Ça veut dire.
Comment? Et si
Théo Hernandez, écoute, Alain, si Théo Hernandez il se blesse, tu crois que tu vas pas revoir Kamavinga arrière gauche? Si au milieu de terrain, Tchouaméni ou Rabiot il se blesse, tu crois que tu vas pas revoir Guendouzi, Veretout?
Il y en aura peut-être deux qu'on peut revoir.
Mais je souhaite que certains et qu'il y ait pas de blessure et que tout aille bien comme mais ça a été le cas sur les deux sur les deux matchs. Mais on le souhaite tous. Mais par contre, Alain, tu peux pas minimiser la performance de certains et le fait que hier t'as été mangé, ne serait-ce que dans l'engagement, par une équipe tunisienne. Pas possible.
C'est toujours la même chose. On n'attendait rien de l'équipe.
Alain, mais d'accord, ok. Mais alors dans ces cas-là, il fallait être forfait et pas jouer le match. Si c'est ton analyse. Et surtout, il fallait pas que tu le regardes, Alain, le match.
Jérôme et Alain, je vais essayer juste de calmer les choses. Alain, je pense que ce que tu comprends pas, c'est que t'as l'impression qu'on critique l'équipe de France à chaque fois qu'on essaye d'expliquer quelque chose. Attends. Non mais Alain. Bon, allez, on arrête là, Alain. Alain, stop, on arrête. On arrête, Alain. Si tu n'écoutes pas, on arrête.
Allez.
Mais bien sûr.
Oui,
il n'y a pas de problème, Alain.
Ok, d'accord, Alain.
Alain, on essaie de remonter le moral autant que possible.
Bonne soirée, messieurs. Au revoir.
Merci, Alain.
Bon, après, Alain, il a le droit de venir dire qu'il n'est pas content.
Exactement, mais il n'y a pas de problème. Après,
on préfère toujours quand on peut débattre et qu'on peut discuter.
Voilà, c'est ça. Là aussi, c'est ça le problème.
C'est ça, Manu. Il voulait donner son coup de gueule, Alain. C'est la possibilité qu'on vous offre sur RMC. Vous pouvez le faire au 32-16. Il n'y a pas de souci.
Non, mais Alain.
On préfère quand il y a un dialogue et quand il y a des échanges.
Alain, il a 58 ans. Il est proche de la retraite. Donc, il sait qu'il va bientôt s'emmerder. Donc, il a envie de passer des bons moments. Voilà. Donc, après, non, il a le droit aussi.
Non, mais Jérôme.
Ah non, on ne connaît pas sa vie. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà. Il trouve qu'il est énervé contre nous. Il a le droit d'être énervé contre nous.
Il n'est pas loin de la retraite.
Jérôme, on a vécu cette situation quelque part. Moi, en 82, j'ai vécu cette situation. J'étais pas titulaire au premier match. Le lendemain, j'ai fait un match contre une équipe espagnole et j'ai montré mes qualités. Et après la défaite contre l'Angleterre, j'ai été titulaire. Mais c'est parce que je me suis battu aux entraînements, je me suis battu aux petits matchs qu'on faisait le lendemain des matchs. Et ça fait que l'entraîneur te fait confiance.
Et
aujourd'hui,
ouais.
Est-ce que Didier Deschamps peut faire confiance aux remplaçants de hier? Non.
C'est compliqué.
Et dire ça, c'est pas une critique contre l'équipe de France. Et ça n'empêche qu'on est tous derrière les Bleus pour espérer aller loin.
Et puis juste pour finir là-dessus, on fait des émissions tous les jours et on fait des analyses après tous les matchs. Donc, si quand l'équipe de France elle est mauvaise, on dit c'est pas grave, puis elle sera meilleure sur le prochain match. En fait, on fait pas d'émissions, on fait pas de débrief.
Tu t'es bien fait bouger quand même, Jérôme. Et t'écoutes quoi? Allez, dans une seconde.
C'est toi qui as eu peur de lui. Attends.
Non, pas du tout. Deschamps est l'accusé du soir.
Allez, arrête, Alain, s'il te plaît. Arrête.
On
va devoir arrêter, Alain. Il t'a rien écouté du tout. En fait, tu t'es fait bouger.
Il a rien écouté, oui, c'est sûr. Personne, il n'a écouté personne.
Dugam l'avait dit que tu te faisais bouger.
Allez, dans une seconde, Deschamps sera accusé d'être injuste avec Benjamin Pavard. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h29 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, bien sûr, et c'est chaud Rotten sans flamme. Et oui, on a reçu un auditeur qui n'était pas content. Et bien, ça peut arriver. On est avec Jean-Louis Tour, on est avec les deux Manu, Manu Petit, Manu Amoros ce soir. Et oui, dans 15 minutes, restez bien avec nous parce qu'on aura le moment de Julien Cazard avec son Cazard enchaîné à 18h45. Et après, bien sûr, encore une deuxième heure. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs et on est encore une fois ravis de retrouver mon émission, comme ça, notre émission, voilà, c'est deux heures
de débrief,
c'est
fantastique. Toi, t'es un petit vieux avec tes habitudes. Hein. Bah, oui, t'aimes pas quand on bouleverse tes habitudes.
Ça fait longtemps.
T'as tes rendez-vous aux heures précises.
Ouais, voilà, j'aime bien.
Ça doit pas bouger.
J'aime bien.
Ah,
j'aime
ça.
Bien.
C'est ouais, ça. Ouais. Allez, le casar enchaîné tout à l'heure, 18h45, tout de suite, le dossier Pavard.
RMC, Rotten sans flamme.
Ce qui est pardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites surprise. Surprise hier donc, Deschamps fait largement tourner face à la Tunisie. Certains sont mis au repos pour des questions physiques, d'autres parce qu'ils avaient un carton. C'était le cas de Jules Koundé au poste d'arrière droit. Mais ce n'est pas Benjamin Pavard qui a été choisi, alors que Deschamps les met les deux en concurrence au poste d'arrière droit. C'est Axel Disasi, défenseur central de métier, qui a joué à ce poste. Explication de Deschamps après le match.
En ce qui concerne Benjamin, écoutez, j'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ça vous intéresserait, mais... J'ai jamais agi comme ça. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un choix différent.
Voilà, il n'est pas dans de bonnes dispositions, Benjamin Pavard, alors que Deschamps était injuste avec lui. C'est ce que pense le procureur spécialiste du poste d'arrière latéral, un nouveau procureur, Manuel Amorose. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir.
L'avocat Didier Deschamps, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir maître.
Bonsoir à tous.
Et le juge qui va nous trancher cette affaire, c'est le juge Manu Petit. Bonsoir monsieur le juge.
Bonsoir messieurs.
Alors allons-y monsieur le procureur Amorose, vous reprochez quoi à Deschamps sur ce dossier?
Alors, plein de choses. Hein. Je crois que c'est tout à fait normal. Je trouve Deschamps excessivement sévère envers Pavard. Qui n'a pas raté un ou plusieurs matchs dans sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Il y a 4 ans, il a été une formidable surprise, avec un mental d'enfer, une envie, une volonté d'aller vers l'avant à ce poste-là, et personne s'en est plaint. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on fait vraiment un procès sur Pavard. Il a pas été bon, c'est pas un souci. Pavard est quand même un joueur de qualité qui mérite beaucoup de confiance. C'est un joueur à la limite, le seul problème qu'on pourrait le reprocher aujourd'hui, c'est que c'est un joueur qui faut rassurer tout le temps. Un garçon qui n'est pas tranquille dans sa tête, hein. Il se pose énormément de questions, il faut lui parler sans cesse, il faut lui amener une certaine confiance pour préparer un match. Mais bon, ça c'est le rôle de l'entraîneur aussi à faire ça, l'entraîneur et le sélectionneur bien sûr. Il faut pas oublier non plus que aujourd'hui le poste de latéral, il ne le fait pratiquement plus dans son club. Il est plutôt défenseur central et il a moins de repères aujourd'hui que ceux qui pouvaient l'avoir il y a 4 ans en arrière. Certes, je suis d'accord, il n'a pas été bon contre l'Australie, fautif sur le but, pas de marquage, il anticipe la contre-attaque alors qu'il aurait dû plutôt rester puisque ça se déroulait de l'autre côté. Donc il se fait prendre sur cette action et on le voit bien, au lieu de venir couper et prendre l'extérieur pour aller contrer son adversaire direct, il est plutôt rentré dans l'axe. Une mauvaise habitude peut-être de son poste de défenseur central. Donc je trouve Deschamps sévère envers Pavard, qui le sanctionne pour le 10e match. Mais là, ce qui est logique, hein, on va pas discuter là-dessus. Mais il aurait pu lui donner une nouvelle chance pour le 3e match, pour qu'il retrouve confiance et temps de jeu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à 24, on va être à 23. Ce garçon-là, Didier Deschamps, l'a complètement condamné à ne plus jouer un match de Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, il a condamné. Je pense que Koundé n'a pas fait mieux. Il a été un peu meilleur sur certains points, mais il n'a pas été non plus fantastique à ce poste-là. Il dit qu'il n'est pas dans la bonne disposition pour jouer, ok, pas de souci, mais ça veut dire que, comme je viens de dire, il est plus Pavard, on l'a plus. Voilà, il est perdu.
Ouais, c'est comme si on l'avait perdu.
Ouais, on l'a complètement perdu. Il est quand même champion du Attends, j'ai pas fini. Oh.
Ah, pardon.
Il est quand même champion du monde et il a une certaine expérience. Comment ?
Jérôme, t'as dit que t'es un peu long. Non, ah, mais vas-y, okay. Pas de soucis.
Vas-y. Non, mais il est quand même champion du monde, il a quand même une certaine expérience. Et bon, pour finir, je dirais, mon ancien et regretté sélectionneur, Michel Hidalgo, qui était très psychologue, il disait, avec un bâton, on peut faire des résultats. Avec de l'amour, on peut faire des miracles. Deschamps devrait donner un peu d'amour à Pavard aussi.
Très bien. Eh bien, on retient cette formule. Maître Roten, comment défendez-vous votre client ?
Bah, je défends le sélectionneur pour la simple et bonne raison qu'il a fait des choix et c'est son choix. Difficile de se mettre dans sa tête. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été terriblement déçu de la première prestation de Benjamin Pavard dans cette compétition. Donc, ça faisait partie d'une remise en question aussi de lui, de voir comment l'équipe pouvait fonctionner différemment, avec moins de faiblesses. Et en l'occurrence, il y a une concurrence qui est très forte au poste d'arrière droit, du moins pour Didier Deschamps. S'il prend Koundé et Pavard, bah, au début de la compétition, c'est qu'il estime que ce sont deux bons défenseurs avant d'être des bons contre-attaquants. Que le premier match, Benjamin Pavard a failli là-dessus en étant un mauvais défenseur sur ce match-là. Et puis même dans l'agressivité, chose essentielle, et ça c'est pas Manu Petit ou Manu Amoros qui vont me dire le contraire, vu que c'est des positions qu'ils ont occupées dans leur carrière. Si tu te trompes dans l'approche et dans l'agressivité, c'est problématique derrière. Donc ça a été le cas, il y a eu une discussion, il l'a dit, il a beaucoup parlé, ils se sont beaucoup parlé avec Benjamin Pavard pour voir le pourquoi du comment. Et lui aujourd'hui, Didier Deschamps estime que Benjamin Pavard est pas prêt à jouer pour l'instant un match de haut niveau. Encore moins peut-être le match avec les coiffeurs, les remplaçants d'hier. Peut-être que le fait de le mettre dans une équipe affaiblie, et il avait peut-être anticipé aussi le fait que l'équipe de France manquerait de maîtrise, alors peut-être pas à ce point-là, mais serait pas forcément conquérante comme elle peut l'être, et elle l'a toujours été depuis le début de la compétition, et que c'était encore mettre Benjamin Pavard dans des mauvaises dispositions. Donc il l'a gardé au chaud, il continue à s'entraîner pour se refaire un mental et un moral. Il faut juste dire que mon client est un as là-dessus dans le management avec ses joueurs. Il y a très peu de joueurs sous les ordres de Didier Deschamps, que ça soit en club ou en sélection, sur une compétition comme ça, qu'il a perdu mentalement. En général, ils tirent tous dans le même sens. Et on l'avait vu à la Coupe du Monde 2018. Donc, faut faire confiance à Didier Deschamps dans son relationnel avec Benjamin Pavard pour espérer que Benjamin aille mieux dans les prochains jours et qu'il soit peut-être dispo au cas où ça se passe mal dimanche pour rentrer à la place de Koundé.
Ok, façon de le préserver donc sur ce match.
Voilà.
Monsieur le juge Petit, vous tranchez pour qui ?
Excuse-moi Manu, mais je vais trancher pour Jérôme. Pour la simple et bonne raison, c'est que... Et pourtant, j'ai beaucoup d'estime pour Pavard, que l'on a côtoyé ici même dans le building, garçon extrêmement charmant. Mais si on pouvait reprendre la phrase qu'a sorti Didier Deschamps en conférence de presse où il dit Benjamin Pavard n'est pas dans les meilleures dispositions.
On vient de l'entendre, Manu.
Oui, non, mais justement, après il y a une phrase qu'il dit et il y a un blanc derrière. Ça veut dire qu'il était à deux doigts de finir cette phrase et je pense que la fin de cette phrase, c'est mes mots à moi. Hein, il y a forte chance que je me trompe, mais je pense que les derniers mots de cette phrase c'est et ça date pas d'hier. Donc ça, pour moi, quand je regarde les revues de presse ces derniers jours et quand je vois certaines indiscrétions qui sortent du vestiaire en disant qu'apparemment certains joueurs se plaignent également du niveau de Benjamin Pavard et notamment de son comportement lors de le dernier enseignement au mois de septembre. Moi, ça m'a étonné.
L'équipe raconte que Ousmane Dembélé, notamment, c'est un peu plein après le premier match. Ça, c'est nos confrères de l'équipe.
Le premier match. Mais là, tu parles de la compétition actuelle, mais je parle du rassemblement de septembre où apparemment certains, même le staff, s'est plaint du comportement de Benjamin Pavard.
Moi, je dis. C'est question de positionnement.
Pas seulement positionnement. Oui, je pense que c'est essentiellement dû à ça, mais je pense aussi que le garçon, et Manu l'a souligné, c'est un garçon extrêmement émotif. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il l'a même avoué lui-même à travers sa dépression qu'il a eue pendant le confinement. Il y a des choses privées, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas notre rôle à nous de l'expliquer, mais il a vécu des traumatismes également d'un point de vue privé. Je pense que ces garçons ont besoin d'amour, comme tu dis Manu. Il a besoin de recevoir justement la confiance de son entourage pour pouvoir s'épanouir. Le seul souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas serein parce que à l'extérieur du ballon, bah sa tête elle est ailleurs en fait. Et je pense, moi le seul conseil que j'ai à lui donner, parce que je pense que c'est un excellent défenseur central, quand tu joues au Bayern avec cette régularité, c'est que t'as de grosses qualités. Et moi, pour l'avoir vu souvent en défenseur central, je me dis ce garçon il a quand même beaucoup de qualités. Le problème c'est qu'il joue à un poste qui ne lui plaît pas et ça fait des années qu'il rechigne. Je pense que le but qu'il a marqué à la Coupe du Monde en Russie est l'arbre qui cache la forêt, ce qui a crédibilisé la position de Benjamin Pavard au poste d'arrière droit. Sans ça, je ne pense pas qu'il aurait continué à ce poste-là. Donc, moi, je lui conseille une chose, retrouve la sérénité et surtout la joie de vivre. Et tu redeviens le joueur que tu pouvais être il y a quelques années. Mais tant que tu n'as pas atteint cet objectif-là, je peux comprendre la décision Didier Deschamps de se passer de lui et de voir d'autres options. Parce que quand un joueur n'est pas prêt mentalement, eh ben sur le terrain, il y a de fortes chances qu'il passe à travers.
Bravo Manu.
Victoire de Chiron, donc dans ce fait d'entrer l'accusé, un jugement sans appel. Ouais. On revient dans une seconde. C'est Rotten sans flamme sur RMC. On est en spéciale Coupe du Monde, bien sûr. Je vous rappelle l'élimination de la Belgique. C'était les matchs de 16h. La Belgique éliminée, car la Belgique n'a pas réussi à battre la Croatie 0-0 dans ce match. Dans l'autre match du groupe, le Maroc a battu le Canada 2-1, ce qui fait que le Maroc est qualifié en premier du groupe. La Croatie termine deuxième, les deux équipes qualifiées pour les huitièmes. Dans une seconde, Julien Cazard. Son casar enchaîné.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h45 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Rotten sans flamme du soir. Et oui, après on est là bien sûr avec, après 19h et jusqu'à 20h comme tous les soirs. Restez bien avec nous, ça va être le moment de Julien Cazard dans un instant. On est avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et Manu Amoros ce soir. Après 19h, Jean-Louis, on va continuer à parler de la Coupe du Monde bien sûr.
Et du Brésil. Le feuilleton Neymar va-t-il empoisonner la Coupe du Monde des Brésiliens? 32-16 pour participer au débat. Une info suite à l'élimination de la Belgique. Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait la sélection, qu'il démissionnait de son poste. Donc voilà, il ne sera plus l'entraîneur de la Belgique après cette élimination aujourd'hui. Tout de suite, on se détend.
RMC, Rotten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022 et nous avons passé une belle journée de foot hier. Hier notamment, les matchs coup près, c'est pas pareil. Hein, dès qu'il y a des matchs coup près, il y a une petite tension, ça fait du bien. Et surtout qu'on peut voir les matchs sur la chaîne qu'on veut. On peut écouter à la radio, on peut regarder. Il y a deux salles, deux ambiances. Par exemple, hier, tu regardes le match de la France. Bon, ben c'est sur RMC, ben c'est triste, c'est défaitiste, c'est Jeannot, quoi.
L'arbitre a corrigé, il vient de siffler la fin du match. Est-ce qu'il va annuler le but? Il annule le but! Il annule le but! Cette fois-ci, c'est terminé! Mais cette fois-ci, c'est fini avec la victoire de la Tunisie!
Oh le ringard! Mais voilà, mais il sait pas faire rêver les gens. C'est ça le problème d'RMC, on est là, toujours. Heureusement, il y a des gens qui ont la positive attitude. Parce que quand t'as envie de vraiment prendre du plaisir, t'écoutes TF1 et Grégoire Margoton, là, c'est mieux!
Et on n'ira pas plus loin, on n'ira pas plus loin sur ce but Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde un partout. On revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match, l'élimination de la Tunisie, mais surtout la qualification des Bleus avec la première place en prime dans ce groupe. Rendez-vous en huitième de finale, rendez-vous surtout derrière avec le MAG et Denis Brognard et toutes les réactions. À tout de suite, restez avec nous. Denis, c'est à vous.
Et voilà, t'as pas obligé de revenir sur la VAR, tu rends l'antenne et on est content, bordel. C'est ça qui est sympa, t'attaques l'apéro dans les bonnes conditions, hein. Bah alors on se moque de Grégoire Margoton, c'est vrai, bon ça... Mais il est patriote, il a pas envie de faire du mal aux gens, lui. Et les gens qui regardent, ils ont envie d'un storytelling. Les gens qui regardent TF1, c'est pas pour voir la France perdre. Pour ça, il y a RMC. RMC, on est là, nous, on se nourrit du malheur des autres. C'est notre ADN. On a hâte d'être à PSG Bayern, là, pour les voir tomber. Ça, c'est nous, ça. C'est pas TF1. Et Grégoire, de toute façon, c'est pas là qu'on l'attend. On est d'accord, les gars, on l'attend pas sur ça. On l'attend sur sa connaissance du foot. Lui, il a toujours, tu sais, ses petites infos, ses petits trucs. Ouais. Il a ses fiches. Ça, c'est un mec qui bosse. C'est un peu un maître pour toi, Grégoire Margoton, Jean-Louis.
Bien sûr, c'est un modèle. Ouais, ouais.
Par exemple, là, il y a France-Tunisie. Eh ben, il y a beaucoup de mecs, ils n'ont rien à cirer. Eh ben, lui, non. Il sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Tunisie. Il a bossé, il a taffé le championnat tunisien de foot.
Un joueur de l'Espérance, Tunis, remplace un autre joueur de l'Espérance, le grand club tunisien qui règne sur le championnat de Tunisie. Plus que jamais.
Donc, l'Espérance de Tunis qui règne sur le championnat plus que jamais, qui caracole en tête de son championnat. Mais combien de points d'avance à l'Espérance de Tunis sur le deuxième? C'est une question
à 40 000 en réal.
Oui, le Real. Le Real étant la monnaie du Qatar, le Real Qatari, qui permet d'acheter Neymar, elle n'est pas contre avec le Real de Madrid, qui ne permet pas d'acheter Mbappé. Donc, pour 40 millions de Real, Jérôme, combien de points d'avance à l'Espérance de Tunis sur le deuxième? Réponse A, 1 point. Réponse B, 5 points. Réponse C, 9 points. Réponse D, 0. Parce qu'en fait, ils sont deuxièmes à 3 points de l'étoile du Sahel et Marc Gontan ferait mieux de bosser ses fiches au lieu de se palucher sur les analyses de Bichette. Jérôme, est-ce que vous vous appelez un ami?
Ah bah oui, bah oui.
Nous appelons Thomas Müller, capitaine de l'équipe d'Allemagne. Allô. Allô Thomas, c'est Jean-Pierre. C'est pour 40 millions de réals. On n'entend pas bien. Pouvez-vous vous rapprocher de votre téléphone? Vous avez la main devant la bouche. C'est pour soutenir les LGBT, mais c'est bien. On comprend pas ce que vous dites, par contre. Oui, on va faire sans vous. Merci, Thomas. C'est un très beau projet. Merci pour ce débat. On va faire avancer la chose, Jérôme. Quelle est votre réponse? Je rappelle, quel est l'écart entre Tunis et l'Espérance de Tunis et le deuxième? 1 point, 5 points, 9 points, ou alors ils sont deuxièmes à 3 points de l'étoile du Sahel. Et Marc Gauton ferait mieux de bosser ses fiches.
Je vais dire la 4.
La D.
Attendez, la D, attendez, Jérôme. Parle de Grégoire Marc Gauton. Vous êtes vraiment sûr?
Le mentor de Jean-Louis Tour.
Vous parlez avec Marc Gauton. On a dit qu'ils étaient plus que jamais en tête. Et vous répondez?
La D.
Réponse? Réponse D! C'est une bonne réponse, évidemment. C'est l'étoile du Sahel qui est loin devant. Marc Gauton ferait bien de bosser ses fiches au lieu de se palucher sur les analyses de Bichette. Vous gagnez. Merci Jérôme, vous gagnez donc un brassard LGBT arc-en-ciel qui devient tout gris quand un officiel de la FIFA arrive. Merci Jérôme. Alors, Jérôme et Jean-Louis, la France est qualifiée comme l'Argentine qui fait un très beau match face à la pauvre équipe de Pologne, misérable. C'est vrai que l'équipe de Pologne, c'est quand même nulle. Elle a rien produit, elle a rien foutu. Elle s'en sort miraculeusement en se qualifiant. En fait, grâce aux cartons jaunes, parce que ça a obligé les Mexicains à se livrer, parce que sans les cartons jaunes, ils étaient à la ramasse. Bref, la Pologne est certainement l'équipe la plus nulle des qualifiés en huitième. Ça, on en est sûr. Est-ce que tu peux me rappeler, Jean-Louis, qui les affronte en huitième? La Pologne. La France. Merci Jean-Louis. Ça raconte quelque chose. Je pense que c'est le retour.
Alors qu'on la croyait morte, enterrée, disparue à jamais, elle renaît de ses cendres tel le sphinx, revenue des ténèbres, réapparue d'entre les morts. Elle revient plus fort que jamais. C'est la chatte à Dédé.
Elle est là, la chatte à Dédé. As-tu cru qu'elle était partie? Mais non, mon pote. Et tu te rends compte, on peut foutre une équipe de clowns avec une compo faite au bon taux. On arrive à perdre le match, il y a encore premier de son groupe, et derrière, on chope carrément la Pologne. On est en quart,
attention,
Jean-Louis.
Attention, Julien. Bah, je sais pas, Chesney, il est énorme. Il y a Lewandowski, Zelinski. Il y a des joueurs quand même, Milik.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, en gros, t'as raison. Je m'enflamme pas. Je suis un peu un footix. Mais je reconnais. J'oublie que le foot, c'est pas si simple. J'oublie que tu, et c'est là qu'il faut se faire remettre à sa place par les spécialistes. Parce que moi, je suis là. Ouais, on est déjà en quart. C'est déjà gagné. Les mecs en face, il y a personne. Je vais quand même prendre l'avis d'un expert. Je m'en ai à Daniel Riolo.
C'est du 100%. Pour moi, c'est un beurre total. Mais même dans ce cas, je pense que même à 10 contre 11, j'imagine pas une défaite contre cette équipe. Un beurre qui est même resté au soleil, tu vois. Donc on est déjà dans le quart de finale.
Eh ben voilà! Pourquoi vous stressez? On est déjà en quart de finale! Bon, alors, on est en quart de finale. Après, contre qui? On sait pas. Contre qui on joue normalement? Jean-Louis, si on passe.
Angleterre.
Ou le Sénégal?
Oui, non, bien sûr. Angleterre ou Sénégal.
Ah oui, donc c'est vous, c'est déjà l'Angleterre. Le Sénégal a aucune chance.
Non, c'est la France contre la Pologne.
La logique, c'est que les favoris passent. Donc l'Angleterre va demander contre le Sénégal.
On va commencer la vie de Daniel. Quoi.
Donc on est déjà dans le quart de finale.
J'ai joué
on est
avec
déjà dans
qualité.
France-Angleterre de du 9.
C'est bon. Donc, okay. Qui c'est qui se foutait de ma gueule quand il y a deux jours je disais que c'était déprimant qu'on était déjà en quart de finale? Ah oh ben non, t'es dégagé.
Je me permets juste. S'il y a France-Angleterre, c'est le 10 décembre, pas le 9, comme vient de dire Daniel.
Attends, t'es en train de remettre en question ce que dit Daniel,
non? Non, pardon.
Daniel est plus.
Pardon, si Daniel le dit, écoute-moi bien. Si Daniel le dit, c'est comme Chuck Norris. Ils vont déplacer au 9 pour pas que Daniel ait tort.
Oui, d'accord, t'as raison.
Revenons sur le match qui vient de se terminer, Croatie-Belgique, qui était le match de la muerte, deux équipes qui étaient demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde quand même, hein, une finaliste. Ouais. On a vu la défaite l'élimination des Belges. Ça a été dur pour les supporters belges, hein, je le sais, je peux dire, j'en ai vu beaucoup. Alors le problème, c'est qu'ils ont écouté RMC. C'est complètement con. Si t'écoutes RMC, t'es éliminé. Fallait juste écouter TF1.
C'est terminé.
Du suspense en 8e.
Non, excusez-moi. C'est pas le bon son là. C'est pas TF1. Non. En fait, là, ça c'est pour le mec qui a regardé TF1 Premium. Mais il y a une autre version de TF1. Là. Ah oui, la TF1. Ah oui, mais oui.
Ils l'ont fait. Les Diables Rouges rentrent dans l'histoire, se qualifient.
Voilà. Mais c'est ça qu'on veut écouter, nous. On n'a rien à foutre du reste.
Je voudrais venir pour finir sur un sujet qui m'inquiète. Vous savez qu'on a vu que Lionel Charbonnier est un petit peu fatigué.
Il est inquiétant.
Il a du mal entre le match du Ghana. On a vu que Jean-Louis voyait le Sénégal en 8e de Ligue des Champions. On passe un cap. Nous affrontons la Pologne en 8e, ok? Hier soir dans l'after, Gilbert nous rappelait les derniers France-Pologne, notamment le dernier en Coupe du Monde, celui de 82 pour la 3e place. Un magnifique France-Pologne. Ce France-Pologne était 3 jours après le fameux France RFA où Batiston était sorti sur civière dans le coma. Le pauvre, 3 jours après, il y avait un match. Forcément, de la 3e place. Ben Gilbert, il demande, à votre avis, qui jouait ce match? Et là, Lionel, ben, il est magique.
Mais juste avant, la dernière fois qu'on a joué la Pologne dans une compète officielle, 82, match pour la 3e place. Allez, rapidos, trouvez-moi le 11 de départ, là, qu'on rigole.
Bah, Castaneda était dans les buts, ça, oui.
Ça avait tourné, le match de la 3e place.
Voilà, c'est pour ça que c'est dur.
Franchement,
Jean-Vion, c'est bon.
82,
Batiston, je vais pas.
Batiston, ah, bah non, le pauvre, il est.
Ah, il est con. C'était bien tenté.
Oh merde. Batiston, si, ça allait mieux. Il a mis un sparadrap et puis il a bu un verre d'eau chaude et puis il est retourné sur le terrain.
Il avait plus de dents en plus, le pauvre Batiston.
On parle de la commotion cérébrale de Batiston, mais moi je m'inquiète pour celle de Lionel. Protocole commotion, s'il vous plaît. On tiendra jamais jusqu'au 18 décembre. Allez, à demain.
Le casar enchaîné.
On embrasse Lionel. Ça arrive à tout le monde, des petites erreurs.
Dites-moi, il s'est pas trompé, il a pas bossé lui non plus, non? Parce que la Pologne ne s'est pas qualifiée au carton jaune. Elle s'est qualifiée parce que le Mexique a pris un but.
Oui, le Mexique a pris un but. On était en train de compter les cartons à un moment donné dans la soirée. Et finalement, le but a fait la différence.
La Pologne a marqué deux buts à l'encaisser deux et le Mexique a marqué deux buts à l'encaisser trois.
Bravo, Manu. Enfin, un peu de rigueur dans cette émission, ça fait bizarre. Vas-y,
remets-moi.
Il doit bosser, il se moque des autres. Mais lui, il doit bosser aussi.
Allô. Le problème de Manu, et moi, je lui en veux pas parce que faire des émissions à l'heure de l'apéro, c'est toujours tendu. Mais j'ai dit, Manu, que à cause des cartons jaunes, les Mexicains ont dû se livrer et c'est pour ça qu'ils ont pris un but. Parce que s'il y avait pas les cartons jaunes, à 2-0, ils étaient qualifiés. T'écouteras le podcast et t'essaieras de boire un café sans calva et après on en discute. Allez, à demain.
Attention, Julien, à pas prendre un coup de tête perdu avec Manu quand même. Attention.
Oui, bien sûr, je suis pas Jespéron le 7. Hein.
T'es pas danois, ouais. Allez, merci, Julien.
Ouais, mais toi, tu te relèveras pas.
Dans une seconde, la blessure de Neymar va-t-elle empoisonner toute la Coupe du Monde du Brésil 32-16? Et puis on va débattre autour de Messi. Est-ce qu'il gagne cette Coupe du Monde? Est-ce qu'en gagnant cette Coupe du Monde, il deviendrait l'égal de Maradona? A tout de suite dans Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.